Radio Prague, les informations.
Dobrý den, bonjour et bienvenue à l'écoute. Alexis Rosenzweig au micro pour le bulletin. Donc voici tout de suite les titres. Une grève est prévue dans les transports en commun, probablement lundi. Des œuvres tchèques exceptionnelles seront vendues aux enchères à Londres. Et puis Cecilia Bartoli, de la musique classique bien sûr. Cecilia Bartoli en concert ce jeudi soir dans la capitale tchèque. Les négociations entre les représentants syndicaux et le ministre des Finances Miroslav Kalousek n'ont apparemment rien donné. La grève a presque 100% de chances d'être confirmée, a déclaré le président de l'association des syndicats indépendants, Bohumil Dufek. Elle devrait être organisée dans les transports en commun lundi pendant une douzaine d'heures, de 3h du matin à 4h de l'après-midi, à Prague et dans les autres grandes villes du pays. La circulation des trains pourrait également être perturbée par cette grève. Une décision définitive devrait être prise vendredi par les syndicats. Le taux de croissance de l'économie tchèque au cours du premier trimestre de cette année s'est élevé à 2,8%. Ce taux est supérieur de 0,3 points à la prévision établie par les économistes. Le produit intérieur brut a augmenté de 0,9% par rapport aux trois derniers mois de l'année dernière. Les chiffres ont été communiqués ce jeudi par l'Office tchèque des statistiques. Le commerce international notamment a influencé positivement l'économie tchèque. Celle-ci profite essentiellement de la bonne santé économique de l'Allemagne voisine, principal marché d'exportation pour la République tchèque. Plus de 5 millions de livres sterling, c'est ce que devrait rapporter la vente aux enchères lundi prochain de quelques-unes des œuvres les plus prisées de l'histoire de l'art moderne tchèque. Il s'agit de la vente à Sotheby's de la collection des époux américains Asco, aujourd'hui décédé et qui en seulement 25 ans avait acquis les tableaux des plus grands noms de la peinture moderne tchèque, František Kupka, Bohumil Kubišta, Emil Fila ou encore Josef Čapek, pour ne citer qu'eux. Il s'agit de la plus grande vente d'art moderne tchèque en dehors du territoire de l'Europe centrale. Et puis musique classique, Cecilia Bartoli, se produira pour la première fois ce soir en République tchèque, au Rudolfinum de Prague. Depuis 20 ans maintenant, elle fait partie des meilleures interprètes de musique classique. Cecilia Bartoli a choisi pour sa première prestation pragoise des partenaires exceptionnels, l'ensemble Mateus, dirigé par Jean-Christophe Spinozzi, grand connaisseur de la musique de Vivaldi. Et dans le cadre du projet Venise-Vivaldi-Versailles, seront à entendre notamment les airs des opéras Ottone in Villa, Montezuma, Tito Manlio et Catone in Utica. On termine avec un mot sur la météo. Plus de soleil et moins de pluie, ce sont les prévisions pour ce vendredi, avec des températures qui sont en légère hausse, entre 19 et 23 degrés Celsius pour les maximales. Voilà pour le bulletin d'information. Pour plus d'infos, vous le savez, c'est sur notre site internet www.radio.cz. Pour nous écrire, français-radio100.cz, français-radio.cz. Dans une poignée de secondes, c'est Václav Richter que vous retrouvez pour la suite du programme en français de Radio Prague.
Faits et événements en République tchèque. La réforme du baccalauréat tchèque ne fait pas l'unanimité. Inauguration ce jeudi au Musée des Arts Décoratifs de Paris d'une exposition des œuvres de la designer tchèque Libuše Niklova. Tels sont les thèmes de ce tour d'horizon de l'actualité tchèque que nous avons intitulé « Faits et événements ». La suite de l'émission sera réservée à notre rubrique « Les Tchèques célèbres et moins célèbres », dans le cadre de laquelle Magdalena Hrozinková brossera un portrait du directeur du jardin botanique de la ville de Liberec, Miloslav Studnička. Merci de rester avec nous. Décidément, le tout nouveau baccalauréat tchèque, désormais national, n'en finit plus de faire couler de l'encre. Une fois de plus, et alors que les épreuves sont terminées, une pétition initiée par des lycéens proteste contre les questions de tchèque et de littérature. Parallèlement, les universités sont mécontentes de la possibilité d'un bac conditionnel. Résumé de l'affaire avec Anna Kubišta.
14 années de longue préparation de cette maturita nationale n'auront pas suffi à faire taire les critiques. Celles-ci ont commencé tôt, bien avant sa tenue, et continuent aujourd'hui alors que les épreuves sont finies depuis mardi. À Brno, une lycéenne est à la tête de la fronde de plus de 7000 personnes, signataires de sa pétition, élèves comme enseignants. Nous sommes désolés de voir que notre réussite ou notre échec au baccalauréat ne correspondra pas à nos connaissances ou capacités, comme c'était le cas dans la plupart des écoles jusqu'à présent. Voilà, en substance, le reproche fait aux épreuves. Pour Dana Večerková, les tests de tchèque et de littérature notamment étaient ambigus.
My se hlavně ohrazujeme proti tomu, že výhodu tady má ten, který...
Nous nous opposons surtout au fait que les élèves sont avantagés quand ils savent raisonner comme l'auteur des questions, quand ils comprennent ce qu'ils voulaient tester. Mais si vous réfléchissez à l'épreuve de manière critique, ce qui est le cas pour l'épreuve de base de tchèque et de littérature, vous vous rendez compte que vous pouvez répondre de plusieurs manières différentes, alors que vous savez que vous ne pouvez cocher qu'une seule réponse.
Několik správných odpovědí a vy víte, že máte zvolit jednu.
Les épreuves qui se veulent une évaluation comparative du niveau des élèves dans tout le pays tirent, d'après Dana Večerková, les meilleurs élèves vers le bas.
Srovnání je určitě cenná informace, ale otázka zní, jestli by k němu měli vést maturitu.
La comparaison est sans aucun doute une information importante, mais la question est la suivante. Est-ce le rôle du baccalauréat? Est-ce qu'il ne faudrait pas un examen comparatif à côté ou bien éventuellement qu'il y ait une partie comparative dans les épreuves, mais sans que ce soit le but ultime du bac? Si vous êtes dans une école d'un niveau plus élevé et que les élèves reçoivent un bac simplifié, ça démotive les élèves. Pourquoi ne pas faire en sorte que l'école en question ait ses propres épreuves qui correspondraient au niveau des études suivies tout au long du cycle?
Rappelons qu'un des problèmes majeurs en République tchèque, contrairement au système français par exemple, est que certains lycées sont spécialisés dans différents domaines, qu'il s'agisse d'art, de couture ou encore de technique. Stanislav Zajíček est professeur dans le lycée de Dana. Lui aussi conteste la pertinence d'un bac unique alors que les établissements sont si différents.
Malheureusement, un bac unique ne laisse à personne la chance de se distinguer, de sortir du lot. Le résultat, c'est que ces épreuves laissent à tous un goût amer et un vrai sentiment de déception.
Le directeur du Centre pour le repérage et l'évaluation de l'éducation, ou encore CERMAT, Pavel Zelani, défend les nouvelles épreuves préparées par celui-ci, de même qu'il rejette les protestations des universités qui contestent le nouveau principe d'un baccalauréat conditionnel. En effet, d'après ce principe, les élèves qui auraient échoué aux épreuves de fin d'année pourraient passer les examens d'entrée à l'université, être potentiellement acceptés, mais leur inscription dépendrait de leur réussite au rattrapage du bac en septembre. Mais pour les universités acceptées, des étudiants qui n'ont pas encore formellement le bac et n'ont pas achevé leur cycle secondaire serait une entorse à la loi. Pavel Zelení, lui, s'en défend.
Tak především záleží na postoji každé fakulty, každé vysoké školy.
Tout dépendra de la position de chaque université, de chaque faculté. Mais pour entrer à l'université, ce n'est pas qu'une question d'examen, c'est aussi une question d'inscription. Là, on parle d'une date limite d'inscription fixée au 1er octobre. Évidemment, nous allons essayer de faire en sorte que tous ceux qui auront leur bac au rattrapage puissent obtenir leur diplôme officiellement pour cette date.
A tam my samozřejmě se budeme snažit pro to, aby všichni úspěšní i po opravkách měli vysvědčení už v té době.
Mais d'ores et déjà, nombre d'universités ont fait savoir qu'en raison d'effectifs parfois déjà trop importants, le choix serait vite fait entre un bachelier de la première heure et un bachelier au rattrapage. Une chose est sûre, le nouveau baccalauréat n'a pas fini de faire parler de lui.
Une exposition des jouets créée par la designer tchèque Libuše Niklová a été ouverte jeudi au Musée des Arts Décoratifs de Paris. Au cours de sa courte vie, 1934-1981, cet artiste a créé une foule de jouets qui ont marqué plusieurs générations d'enfants tchèques. Libuše Niklová a su exploiter d'une façon ingénieuse les possibilités du plastique qu'elle considérait comme le matériau de l'avenir. Son ambition principale était toujours de créer les jouets qui permettaient à l'enfant de jouer de façon créative. C'est une simplicité savante qui caractérise les jouets de Libuše Niklová. Leurs couleurs sont expressives, ils sont souples, manipulables, gonflables et réagissent à la pression par des sifflements et des miaulements. Leur forme arrondie invite l'enfant au contact et à la manipulation. Ils attisent la fantaisie et l'esprit du jeu. L'exposition du Musée des Arts Décoratifs de Paris réunit 120 jouets et retrace l'ensemble de la carrière de cet artiste, longtemps resté caché derrière son œuvre. Plus de détails avec Teresa Brutanzova, commissaire de l'exposition parisienne et auteur d'une monographie de Libuše Niklová. Teresa Brutanzova a évoqué au micro de Radio Prague tout d'abord la genèse de l'exposition.
à Prague, c'est la maison d'édition Arbor Vitae Societas qui produit cette exposition, qui a aussi édité le livre monographique. Et moi, comme je vis entre Prague et Paris, je suis en contact avec les designers français. J'ai présenté l'œuvre de Lyubusha Miklova à une designer française très connue, Nathalie Crasset, qui a adoré ses jouets et qui a présenté en fait son œuvre au commissaire du département des jouets au musée des arts décoratifs de Paris, avec laquelle j'ai tout de suite rendez-vous. Elle était vraiment enthousiaste et elle est même venue au vernissage au musée des arts décoratifs à Prague. Et tout de suite, nous avons décidé d'organiser l'exposition à Paris.
Qu'est-ce que donc les Parisiens pourront voir au musée des arts décoratifs?
Alors, ils pourront voir vraiment tout ce qui nous reste de l'œuvre de Lyubusha Miklova actuellement, ce qui est heureusement un nombre assez important des jouets gonflables, ainsi que des jouets en polyéthylène, comme surtout cette collection magnifique des animaux avec le corps en accordéon, mais aussi des petites figurines en caoutchouc moulé ou PVC, qui ont été fabriquées dans les années 50 et la première moitié des années 60 dans la firme Gumotex à Břeclav. Mais on va présenter aussi quelques modèles en plâtre, quelques dessins qu'on a retrouvés de Lyubusha Miklova. Et aussi bien sûr beaucoup de photos d'archives qu'on a retrouvées, par exemple dans les rapports annuels de l'usine de Fatra ou dans les archives du fils du designer, l'artiste Petr Nikl.
C'est ce que je voulais vous demander. Dans quelle mesure le fils de Lyubusha Miklova, Petr Nikl, lui aussi artiste plasticien, développe et poursuit l'œuvre de sa mère?
Je pense que l'œuvre de sa mère a influencé le travail artistique de Petr. C'était pas une influence directe, mais elle est quand même importante, qu'il dit ça lui-même, surtout côté forme assez organique, oblique, mais aussi son côté de joueur, parce qu'il crée pas seulement bien sûr de l'art plastique, mais aussi il se consacre aux performances, au théâtre, etc., à la musique. Donc je pense que c'est son œuvre est très gaie, aussi gaie que justement l'œuvre de sa mère. Et c'est pourquoi on a d'ailleurs, j'ai d'ailleurs nommé, appelé l'exposition à Paris Plastique Ludique, parce que ces jouets, bien sûr, on peut dire que les jouets en principe sont des objets qui sont ludiques, mais vraiment l'œuvre de Lyubusha Miklova est ludique particulièrement.
L'exposition Plastique Ludique sera ouverte au Musée des Arts Décoratifs de Paris jusqu'au 6 novembre. À cette occasion, le Centre Tchèque de Paris présentera à partir du 28 juin une exposition réunissant les œuvres de Petr Nikl qui lui ont été inspirées directement ou indirectement par sa mère. Vous êtes toujours sur Radio Prague, émission en langue française. Vous vous souvenez peut-être avoir visité, par l'intermédiaire du magazine touristique de Radio Prague, le plus ancien jardin de plantes en République tchèque qui se trouve dans la ville de Liberec en Bohême du Nord. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre de son directeur, Miroslav Studnička, botaniste qui a découvert plusieurs espèces de plantes carnivores. Il a parlé à Magdalena Hrozinková de sa vie professionnelle marquée par le communisme et ses vestiges, et aussi, par exemple, d'une sensibilité pour les plantes qui n'est pas propre à tous les jardiniers.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres.
Bonjour
Prat dit à tous, je vous invite donc une fois de plus au Jardin des Plantes de Liberec, un des plus beaux dans le pays, avec notamment ses 9 serres modernes ouvertes au public en 2000 et qui abritent plus de 6000 espèces végétales. Sa transformation est l'œuvre de son directeur, le botaniste Miloslav Studnička, 62 ans, qui est à la tête du jardin depuis 1990. Quels ont été ses débuts en botanique ?
Je suis originaire de Libochovice, la ville de naissance du célèbre biologiste Jan Evangelista Purkinje et d'autres scientifiques encore. Je passais tous les jours à côté de la petite école que Purkinje avait fréquentée. La ville est entourée des collines du massif central de Bohême et des forêts marécageuses. Mes copains et moi, nous y cherchions des tritons et des fossiles. Le château local dispose d'un vaste parc où se trouvait à l'époque de mon enfance des serres avec des plantes précieuses, car le dernier propriétaire du château, le comte Herberstein, voyageait beaucoup, même en Afrique, et collectionnait des plantes. Je me souviens qu'il y avait aussi un grand jardin alpin, et tout cela, ce côté esthétique aussi, m'a influencé.
Le chemin de Miloslav Studnička vers la recherche scientifique a été compliqué par le contexte politique. Son père a été le fils d'un koulak, un paysan jugé trop riche par les autorités communistes.
Maminka, učitelka, tata, učitel.
Mes parents étaient enseignants. Ils ont perdu leur poste pour des raisons politiques et ont ensuite travaillé comme ouvriers. Ils me disaient tout le temps que moi, je ne pourrais jamais faire d'études supérieures à cause de leurs problèmes avec le régime communiste. Mais en 1967, à l'époque du dégel politique, il a été annoncé que les examens d'entrée dans les écoles supérieures seraient anonymes. Et c'est ainsi que j'ai été admis à la faculté des sciences naturelles. C'était ma seule chance, car après l'occupation soviétique, les examens anonymes ont évidemment été supprimés. Un pont que je venais de traverser s'est alors écroulé.
Depuis 1973, Miloslav Studnička vit à Liberec. Il a travaillé pour le musée local et parallèlement pour le Jardin des Plantes, en se consacrant surtout aux recherches sur le terrain. Peu à peu, il s'est spécialisé dans le domaine des plantes carnivores. On l'écoute.
Je constate en toute modestie que je suis arrivé aux plantes carnivores en empruntant la même voie que Darwin. Tout le monde connaît ses recherches sur l'évolution, mais peu de gens savent qu'il a écrit un gros livre sur les plantes carnivores. Il s'est intéressé à ces plantes parce qu'elles possèdent certains traits relatifs à la morphologie, à l'anatomie et à l'écologie, beaucoup plus marquants que les autres espèces. Autrement dit, elles sont de bons modèles. À l'époque, quand je ramassais des graines dans la nature pour le jardin des plantes de Liberec, la direction du jardin m'avait demandé si je ne voulais pas commander des graines. J'avais peu de place dans mon bureau, alors j'ai opté pour les graines des plantes carnivores, dont la poussée ne nécessite pas de serre. Les graines ont germé et je ne me suis pas retrouvé avec une, mais avec 1000 plantes carnivores dans mon petit bureau. Je les ai donc rendues au jardin qui m'a proposé de m'en occuper.
Miloslav Studnička, qui s'est également consacré à l'étude des orchidées et des fougères, a découvert plusieurs espèces de carnivores auparavant inconnues. La première s'appelle Pinguicula rotunduflora, en tchèque Tučnice okrouhlokvěta, tandis que sa dernière découverte, faite en 2009 au Brésil, porte en tchèque le joli nom de Bublinatka rouškata. Où se trouve en fait la terre promise de ce botaniste ?
Je suis particulièrement attiré par l'Amérique latine. Évidemment, on trouve des choses fantastiques aussi en Asie tropicale, par exemple l'arum titan, une espèce qui possède la plus grande fleur au monde, découverte à Sumatra et que nous avons ici dans notre jardin. Mais vous savez, un bon botaniste trouve des plantes intéressantes même parmi les ordures. Moi, je suis quand même fasciné par la végétation des forêts tropicales en Amérique.
Nous l'avons dit, Miloslav Studnička a pris la direction du Jardin des Plantes de Liberec presque au lendemain de la révolution de 1989. Il revient à ses débuts dans cette fonction qui n'était pas facile.
Le jardin ressemblait à ce qu'on appelle en tchèque « Skanzen komunismu », un musée du communisme. J'étais en conflit permanent avec les soi-disant syndicalistes. Ils étaient habitués à voler des plantes, à revendre des parties des collections. Quand j'ai été nommé directeur, j'ai donc promis de ne licencier personne, mais finalement, ces gens incompétents sont partis tout seuls. car ce paradis où ils pouvaient s'enrichir au détriment du jardin et faire ce qu'ils voulaient était fini. J'ai veillé à ce que rien des collections ne se perde. J'ai exigé un travail de qualité. Avec mon équipe, nous avons ensuite mis en place de nouvelles expositions, de nouvelles serres, ce qui a été une chance exceptionnelle pour nous tous. C'était un travail intense et très beau.
Le jardin des plantes de Liberec totalise 8500 espèces végétales, dont une ou deux meurent chaque année. Comment cultiver des plantes avec succès? Et les personnes qui ont les doigts verts, qui savent sauver des plantes en leur parlant ou en chantant, existent-elles vraiment ou ne s'agit-il que d'un mythe, Miroslav Studnička?
Non, on ne peut pas dire que quelqu'un qui parle aux plantes aura du succès comme jardinier, ou au contraire, qu'elles auront peur de quelqu'un qui les aura maltraitées. Non, cela ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, en revanche, c'est l'intuition, qui n'est rien d'autre que le résultat de l'accumulation d'expériences. Moi-même, je n'ai pas découvert de nouvelles espèces au Brésil par hasard. J'avais une intuition. Il existe des personnes qui ont une sensibilité pour les plantes et qui évoluent suite aux bonnes et aux mauvaises expériences qu'elles ont faites. Et ça s'appelle avoir du talent pour la botanique. Je le vois même ici au Jardin des Plantes. Il y a des jardiniers qui ont les doigts verts, comme on dit, et d'autres qui n'en ont pas. Parfois, il se passe des choses surprenantes. Une de mes jardinières, par exemple, n'avait pas beaucoup de succès. Elle me paraissait même un peu maladroite. Ensuite, elle a eu un enfant, et quand elle a repris le travail après son congé maternité, c'était une autre personne. Elle touchait les plantes d'une autre manière, elle allait chercher des informations à la bibliothèque, et c'est d'ailleurs le principe sur lequel j'insiste. Il faut savoir être instruit et ne pas expérimenter aveuglément.
Magdalena Hruzinková vous a présenté un portrait du directeur du jardin botanique de Liberec, Miroslav Studnička. Et c'est la fin de la première partie de l'émission de Radio Prague en langue française. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes nos émissions en version audio et leur transcription sur www.radio.cz/fr.